Bonsoir et bienvenue sur La Courte Échelle, une émission anticarcérale pour parler de prison, de centres de rétention, d'hôpital, de garde à vue. Pour nous appeler en direct pendant l'émission, sinon on n'est pas là, c'est un fixe, c'est au 04 91 08 28 10. Pour nous écrire des lettres, c'est à Radio Galère, Friche de la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 13003 Marseille, et sinon par courriel la-courte-échelle@riseup.net. Donc c'est tous les dimanches soirs à partir de 19h30, et puis on tire tant qu'on peut. A priori c'est une trentaine de minutes. Ce soir il y a Hello.
Salut.
Il y a Liane.
Coucou.
Il y a Syl.
Coucou.
Il y a Mathieu.
Hello.
Il y a Alex.
Hello.
Et Julie. Et moi, Louise. Voilà. Je laisse la parole à Syl.
Oui, ça peut. Juste très rapidement, parce que là, juste pour dire que ce soir, on invite le collectif Soin. L'équipe est là et je vous laisse vous présenter peut-être.
Ah, direct comme ça, c'est
rapide. Je pense que vous allez vous présenter mieux que moi, je vais vous présenter en fait, tu vois.
Ah, ça marche, pas de soucis, c'est très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, Sans Soin est avant tout un journal. En fait, nous publions un journal de réflexion sur la psychiatrie. On essaye de lutter pour les droits des usagers, des usagères, pour parler un petit peu d'alternatives à l'hospitalisation, un petit peu parler de toute la considération des usagers par les professionnels, afin d'un peu améliorer la condition de nous tous, parce que finalement, tout le monde est concerné par la santé mentale, donc c'est un peu un tabou qu'on essaie un petit peu de déconstruire. Voilà, Alexandre, tu veux rajouter quelque chose ?
Là, comme ça, non.
Très bien.
Ouais. Je rebondirai après, par contre. T'as vu, là, j'étais pas prêt.
D'accord, je t'ai pris par surprise. Et c'est un journal qui existe depuis 3 ans. Alors, ce qui est intéressant dans ce journal, c'est que c'est pas un journal scientifique, fait par des scientifiques, des médecins, tout ça. C'est un journal fait par des usagers de la psychiatrie, dont moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que des personnes qui doivent un peu dealer avec la souffrance mentale et le soin public, enfin, le soin en général, tous les jours. C'est un journal qui est donc fait par des personnes concernées et usagères, parce qu'en fait en France, c'est un peu ça. Quand j'ai été hospitalisé 2 fois, la deuxième fois je me suis dit mais en fait en psychiatrie il n'y a pas de journaux qui existent à part des trucs de médecins, des trucs encore de scientifiques avec des revues scientifiques à 20 euros, blabla, et en fait il n'y a rien pour le peuple qui galère avec ses médocs, avec ses à trouver un psy, à trouver avec sa souffrance mentale qui est un peu particulière, en fait il y a un grand flou dans le soin. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que ça s'appelle Soin, le journal s'appelle Soin, c'est surtout une réflexion sur finalement qu'est-ce que le soin, comment s'apporter du soin, est-ce que finalement offrir un bouquet de fleurs à quelqu'un c'est pas mieux que de lui donner un antidépresseur parfois, est-ce que avoir des amis c'est parfois pas mieux que d'aller voir un psy, bref, c'est un peu ces questions-là qu'on essaie de remettre un petit peu sur le tapis, et tout en ayant quand même, en essayant de mettre en avant le plus possible les usagers et leurs paroles. Voilà. Oui. Sud.
Aussi, on est donc basé dans un groupe d'entraide mutuelle, le groupe d'entraide mutuelle de la Belle de Mai, le GEM Léo, qui nous met à disposition une salle pour qu'on puisse éditer la revue. Donc, on les remercie. Et voilà, on va rester chez eux tant qu'on ne dérange pas.
Ouais, ça nous fait aussi plaisir on est accueilli et ça fait plaisir aussi d'être ici ce soir. Merci de l'invitation en fait.
Merci à vous.
Grand bienvenue sur La Courte Échelle.
Ouais.
Merci.
Ouais. Ah, c'est cool parce que si tu étais venu vers nous en nous disant, c'est vous qui étiez intéressé. Pourquoi en fait, pourquoi vous vouliez qu'on vienne particulièrement?
Ouais, voilà. C'est peut-être justement situer la psychiatrie et pourquoi vous venez à La Courte Échelle, qui est une émission anticarcérale. Nous on le répète souvent, mais en fait dans les faits on n'a pas beaucoup parlé de psychiatrie.
Okay.
Et d'antipsychiatrie, Et peut-être, si ça vous va, de parler un peu de pourquoi, pourquoi faire le lien entre le discours qu'on porte anticarcéral, la parole au lycée.
Il y a énormément de choses à dire, c'est sûr. Il y a tellement de choses à dire sur finalement ces deux notions d'enfermement, encore une fois, de on enferme les gens, on leur supprime leur liberté. Alors moi, pour pas avoir connu la tôle, je peux pas non plus faire des comparaisons parce que ça serait un petit peu très maladroit. Mais ça, un hôpital psy et une prison, il y a quand même beaucoup d'éléments communs. On peut être enfermé en hôpital psy de force avec la police, avec les médecins, selon ce qu'on fait dans la rue, c'est-à-dire si on a tendance un peu trop à se mettre à poil ou à crier des choses, on atterrit très vite dans ce qu'on appelle la chambre d'isolement. Donc du soin sous contrainte. Il y a tout un... En fait, même d'un point de vue historique, il y a des gens, il y a beaucoup de philosophes et des gens qui ont écrit là-dessus, dont Foucault, Michel Foucault, qui a écrit Histoire de la folie, où il parle un petit peu des différentes manières que l'État a de considérer les gens selon les époques, fous ou pas. C'est-à-dire, à une époque, par exemple, je dirais au 15e siècle, un type de personne pouvait être considéré comme fou ou folle, mais après, dans une autre époque, sous un autre régime, sous d'autres mœurs, ben finalement c'est autre chose. En fait, la considération de la folie, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que la folie et en quoi finalement il y a un rapport avec la norme. C'est la norme et le pouvoir finalement et l'État, et c'est ça qui est intéressant, c'est en quoi l'État utilise cette norme de folie pour contrôler le peuple, encore une fois. Et c'est-à-dire on peut te mettre facilement en chambre d'isolement ou en prison selon ce que tu fais, et pour finalement est-ce que le où est le souci là-dedans, enfin c'est ça, c'est très très perméable comme les zones sont finalement très très limites. Et même avant, c'était au 17e, il y avait tout, si on appelait ça les hôpitaux généraux, tous les gens étaient concentrés dans un même établissement. C'est-à-dire qu'on avait les personnes qui avaient une souffrance mentale, les personnes qui étaient à la rue, les clochards, les gens qui avaient des problèmes de précarité, il y avait les gens qui normalement aujourd'hui devraient être en prison, etc. Tout était concentré, c'est finalement qu'au milieu, en 1838, la loi Esquirol sur les hôpitaux psy, c'est-à-dire qu'on a créé des hôpitaux psy spécialement psy pour les personnes qui avaient des problèmes psy, c'est-à-dire que on a essayé de faire une séparation entre les personnes criminalisées et les personnes qui sont considérées comme fous ou folles. Et ça c'est un des moments où oui, il s'est passé ça qui est intéressant, c'est qu'à la base c'est tout considéré comme un même type de personne, en fait. Ça c'est intéressant à voir. Et donc voilà, encore aujourd'hui, les personnes qui ont des souffrances mentales sont, on va dire, on parle de camisole chimique, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire les médicaments font en sorte de, remplacent les camisoles, comme simplement. Donc il y a beaucoup de, on pourrait comparer le psy à un flic, les infirmiers à des matons, etc. Il y a beaucoup de parallèles à faire, et c'est assez édifiant comme ça fonctionne, en fait. Et donc il y a beaucoup de gens qui se battent pour dans le milieu carcéral, mais aussi de la même manière dans le milieu psy. Je pensais au CRPA, Alex. Tu peux en parler peut-être, le CRPA.
Le CRPA, moi je pensais plus au GIA, au GIP, parce qu'en fait il y avait des gens qui militaient à la fois sur la question de la tôle et de l'antipsychiatrie. Et donc il y a le groupe information prison qui a été créé, et dans la foulée le groupe information asile. En fait on retrouvait les mêmes personnes, quoi, qui militaient à la fois dans le GIA et dans le GIP, comme quoi tu vois des correspondances en fait entre les deux luttes. Et
c'était les années fin des 60, quoi, c'est 60, ça, quoi.
70, ouais, c'est ça, ouais.
Avec Foucault, Deleuze, Guattari et
ouais, Jacques Lesage, Delahaye, il y a quelques noms comme ça de militants et militantes à l'époque.
Ça se bougeait quand même plus à l'époque.
Ouais, ça se bougeait plus à l'époque. Il y avait pas mal de revues aussi. Il y avait la revue Marge. Ouais. Pas mal.
L'intolérable aussi, fait par le GIP.
Ah ouais, ouais,
ils ont fait 4 numéros sur justement le groupe information prison à l'époque.
Ça c'est vraiment les pionniers, quoi, en France en tout cas, sur la question anti-autoritaire et sur les critiques à l'endroit de des institutions dites bon voilà disciplinaires, parce que comme tu disais, et la tôle et l'hôpital psychiatrique a dans son ADN une fonction disciplinaire aussi, quoi.
Mais c'est ça, oui, c'est tout l'enjeu de beaucoup de philosophes et encore aujourd'hui de psychiatres, c'est que finalement en quoi est-ce que ça sert de dire qu'une personne est folle? Ça sert à beaucoup de choses, en fait. Il y a un problème de normes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit que la folie, c'est vraiment... C'est bizarre, rien que le mot fou, c'est un mot qui n'existe pas vraiment, parce qu'en fait, rien n'est plus humain que la folie, en fait. Quelqu'un qui pète un câble dans la rue, c'est extrêmement humain. Aujourd'hui, la norme fait qu'on est considéré comme marginaux ou en dehors de la société si on fait certaines choses, c'est-à-dire... C'est-à-dire, si on commence à se mettre à poil dans la rue, là, on est considéré comme fou, par exemple. Mais ça, encore une fois, c'est très culturel. Ça peut être, il y a des pays dans le monde où, quand on entend des voix, c'est bien vu. Au Yémen, par exemple, si tu n'entends pas des voix après qu'une personne proche soit décédée, bah, ça veut dire que tu n'étais pas si proche que ça, en fait. Donc, si tu entends des voix et que tu commences à dire que tu es en contact avec elle dans l'au-delà, bah, les gens vont plutôt t'estimer plutôt que te mettre en chambre d'isolement. Donc c'est encore une fois, ce sont des notions qu'on n'a pas vraiment, qui sont très, qu'on connaît pas vraiment assez bien, quoi.
Et qui servent pas mal du coup pour réprimer toutes les personnes qui sont
un peu déviantes, voilà.
Ouais. Mais c'est fou de se dire que ça vient du même endroit que l'atoll,
ouais,
au final, et que et donc que les pratiques elles soient assez similaires, même si avec le temps ça a pas mal divergé sur aussi d'autres points, mais
oui, c'est sûr, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a un peu des... Bon, après, moi, je pense quand même que la vie en prison doit être bien plus dure qu'en HP. Mais c'est un petit peu les mêmes fonctionnements, quoi. Il y a des interdictions de sortie, il y a des permissions, il y a des choses à faire qu'on n'a pas le choix, comme prendre des médicaments, ou alors c'est forcé. Il y a tout un plein de protocoles qui sont extrêmement similaires, qui sont calqués les uns sur les autres, en fait, quoi.
Et je sais pas si vous voulez, peut-être pas, mais vous me dites si vous voulez peut-être présenter un peu, enfin dire c'est quoi, oui, un peu comment ça se passe en fait, pourquoi tu vas en HP, si c'est sous contrainte, comment tu peux en sortir, enfin je sais pas si ça vous dit, sinon
oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, il n'y a pas de règles, hein. Le mieux c'est d'arriver à... Ben, quand ça va pas, ben ça va pas, on va voir le psy, ou alors on va aux urgences psy, on dit ben ça va pas, et là généralement on voit un psychiatre, et après on est amené soit aller en hôpital public tout d'abord en HP, puis après dans des cliniques s'il faut, mais d'abord on est hospitalisé, et selon la souffrance, ben si on y va de nous-mêmes c'est mieux, parce que c'est quand même, ça se passe mieux. Mais sinon, c'est sous contrainte. Hein. Mais il y a des témoignages assez édifiants, hein, de gens qui ont encore des trucs très archaïques. Hein, il y a un lit au milieu de la pièce. Moi, j'avais une copine, elle doit peser maximum 50 kilos. Il y a 4 ou 5 gros molosses, ils l'ont attaché. La meuf, elle s'est pissée dessus pendant 4 jours. Enfin, c'était assez horrible, quoi. Des choses qui se passent en 2024 et c'est assez terrible. La souffrance psy, c'est la souffrance mentale. On a tous une santé mentale, en fait. C'est ça qui est important avec soin, c'est ça qui est quand même assez central comme notion. C'est qu'on a tous une santé mentale, et il faut arrêter de se dire la folie ou alors la souffrance mentale, c'est pour les autres, quoi. Il y a un gros problème de normativité aujourd'hui, où on veut tous appartenir justement à ce petit spectre extrêmement normal, c'est-à-dire travail, famille, la maison, tac, on a une maison, une voiture, blabla. Alors que le spectre possible humain est extrêmement large, en fait. Et aujourd'hui, dans notre société, on réduit tout à quelque chose d'extrêmement, extrêmement... très étroit, en fait, d'un point de vue mental et philosophique. Donc ça, c'est extrêmement délétère et très très mauvais. Alors dès qu'on diverge un peu, ben on est amené à être pointé du doigt, stigmatisé, ça c'est assez terrible. Si on dit on va au travail, on dit oh putain, je crois que je suis un peu en train de faire une dépression, ou on commence à être regardé bizarre. Si tu dis ah, je prends des antidep au boulot, on va se dire oh là, elle ça va pas du tout, quoi. Et on va commencer à plus trop te parler. C'est un gros tabou qui est extrêmement stigmatisant pour les personnes, en fait. Donc le but, c'est de soin, c'est un peu de déstigmatiser l'image de la souffrance mentale en se disant que bah oui, on peut tous, il y a une personne sur quatre en France qui est amenée à rencontrer la dépression, il y a une personne sur dix en France qui en va entendre des voix au moins une fois dans sa vie. Il y a des statistiques comme ça qui font comprendre que la santé mentale, c'est quelque chose où on est tous confrontés à ça à un moment donné, et il ne faut pas dire que c'est pour les autres, en fait. Ça, c'est extrêmement important.
Et en plus des statistiques, on s'en rend très vite compte si dans notre entourage même, on commence à plus en parler, très vite, en fait, tout le monde on se rend compte que ce n'est pas du tout...
Ça, ça m'a fait halluciner. Chaque fois que je parlais de soins à une personne, n'importe qui, chaque personne m'a dit: ah oui, moi j'ai un ami qui fait ça, ah moi mon père en fait il a été diagnostiqué schizophrène, ah oui moi j'ai fait un épisode. Et, mais tout le monde, en fait, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas un rapport proche avec la psychiatrie, en fait, et avec parfois l'hospitalisation ou la médicamentation. Ça, c'est assez c'est vraiment frappant, c'est ce qui m'a le plus frappé ces derniers temps, donc voilà, c'est... Oui.
Moi, je voulais revenir sur un parallèle, même si un paralole.
Mon lapsus de tout à l'heure.
Ouais. Entre l'hôpital et la prison, sur les retentissements. Une fois que tu rentres à l'hôpital psychiatrique, moi, pour avoir vécu, pas moi à titre personnel, mais des personnes de mon entourage proche et des amis encore, et qui me disent, et ça, je pense que c'est. C'est une expérience partagée par beaucoup de personnes qui ont vécu l'enfermement et l'hospitalisation, c'est que, en fait, derrière, ça laisse des traces. Puisque les conditions de soins sont absolument, sont assez délétères, il y a énormément de maltraitance, et ça, les professionnels de santé le disent, hein, ils se cachent plus, il y a plus de... Ah oui, non, c'est ok... il y a énormément de soignants qui... il y a des vagues de démissions aussi. Parce qu'à l'hôpital psy, public, on ne fait pas du soin. Clairement pas, on ne soigne pas les gens à l'hôpital, en fait. Voilà. Moi, j'ai des amis qui me disent ça, des amis militantes, qui me disent, en fait, on ne soigne pas les gens à l'hôpital. Et donc, c'est une expérience qui est délétère, puisque, Julie, qui est avec nous, pourrait en parler, mais... on arrive, on nous pose un diagnostic, etc. On vit dans des conditions pas possibles, des conditions indignes, en fait. Et on subit la violence institutionnelle, clairement, la violence du pouvoir psychiatrique. Et effectivement, ça laisse des traces après. Et ça change aussi ton rapport à toi. Parce que toi, tu te vois pas forcément comme déconnant ou comme fou ou je ne sais quoi. Mais ce qu'on te renvoie, en tout cas, c'est que tu as un problème, tu vois. Et ça, c'est problématique, puisqu'après, ça va biaiser tes rapports aussi avec les autres. Ça va, de savoir en fait que quelqu'un que t'as en face a un trouble psy, ou comme quelqu'un qui a eu une expérience de la tôle, forcément, socialement, les gens font oula. Il y a un problème.
Quand tu veux chercher un appart, quand tu veux trouver un taf, quoi, toutes ces choses-là, c'est assez impressionnant.
C'est la double peine, un peu. C'est une sanction. C'est un attribut, en fait, social qu'on pose sur la tête des gens. T'es un ancien taulard, t'as été psychiatrisé. Et à partir de ça, on peut te disqualifier et t'empêcher de mener une vie, on va dire, normale. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est des trucs, c'est de la stigmatisation, en fait, tout simplement, qu'on retrouve. Donc à la fois en tôle et à la fois à l'HP, et puis c'est des expériences aussi très très délétères, mortifères. On torture les gens aussi, hein, voilà. La chambre d'isolement, c'est pas ok, hein. donc voilà, c'était ça, mon petit inter.
Merci beaucoup. Juste, on s'était dit qu'on mettait une musique au milieu. Je sais pas si ça vous va toujours. Ouais. Mais peut-être on la met et après on pourra continuer à discuter. Et peut-être justement avec ce truc de comment on te pose une étiquette. Mm-hmm. Peut-être on pourra faire des zooms sur certains articles
Bien sûr.
Du numéro 3 de Soin.
Grave.
On écoute quoi?
Be free of hope.
living my life in vain. And where am I going to? We're down, and there ain't any love left around. Everybody wearing a frown, waiting for Santa to come to town. You're giving it up so plain, you're living your lives in vain. And where are you going to? Giving it up so plain, we're living our lives in vain. And where are we going to? You gotta really try, try so hard to get by. And where are we going to?
C'était Daniel Johnston. Est-ce que tu veux nous dire, Alex, qui c'était cet artiste?
Oui, alors, donc c'est pas un choix par hasard, ce morceau, puisque Daniel Johnston, c'est un artiste américain qui faisait de la musique folk de manière indépendante et qui était aussi, lui, concerné par des troubles psy. Il a énormément parlé de ses difficultés à être bien avec son entourage, avec lui-même, etc. Et toutes les difficultés que suppose d'avoir un trouble psy et ses retentissements sur sa vie personnelle, familiale, sociale. Et voilà, donc c'est un artiste, c'est un dessinateur aussi, qui était fan de... Il est mort en 2018, donc il n'y a pas très longtemps. Et voilà, il faisait de la bande dessinée aussi, des comics, et c'était un musicien aussi, voilà, qui nous parle, on aime beaucoup, et c'est un personnage très très attachant, et voilà.
Très bien. Il a joué avec Sonic Youth et tout, c'était assez chouette.
Ah ouais,
il a été découvert par Sonic Youth. Alors on va vous un petit peu parler de ce numéro 3 de Soin qui est, c'est en fait le troisième numéro qui est sorti.
Alors là tout récemment.
Deux jours exactement.
Là c'est de.
On a fait une soirée.
L'actualité brûlante.
Alors sachez que ce journal est gratuit si vous le voulez le recevoir. Vous nous envoyez un mail ou un truc pour qu'on ait votre adresse. On vous l'envoie très volontiers.
Il faut qu'il nous envoie. Un mail à notre adresse.
À la courte échelle.
Ah, via la courte échelle.
Il n'y a pas de souci, on fera passer avec très grand plaisir.
Voilà, la courte échelle fera passer.
J'ai rien dit, désolé.
Et donc voilà, je vais. On va vous parler un petit peu donc, de ce numéro. Il traite un petit peu de différents sujets. On parle par rapport à l'actualité, on parle de la santé mentale en Palestine. On parle de l'amour et de la sexualité en HP, parce que c'est des choses qui se passent. Il y a un article sur une psychologue qui parle de ses souffrances mentales et en quoi ça change un peu son rapport au patient. On parle d'inceste aussi, on parle de différents collectifs qui s'organisent justement par rapport à leur souffrance mentale pour faire un petit peu évoluer le soin et leurs conditions. On parle de collectifs féministes sur le handicap. On parle de pas mal de choses, et il y a aussi quand même une place qu'on donne aux usagers sur les témoignages. Et là, on a un super témoignage qui ouvre le journal d'une personne qui en fait est considérée comme, je crois, son diagnostic est
de l'ordre bipolaire.
Bipolaire, hein, c'est ouais. Ça. Et son témoignage dit qu'elle en a un peu marre de tous ces gens qui savent mieux qu'elle, qu'il faut qu'elle aille bien, qu'il faut qu'elle soit droite comme un i, qu'il faut qu'elle prenne ses médicaments, sans considérer le fait qu'elle a eu une vie avec des traumas et que la folie a été aussi là à un moment donné pour l'aider. En fait, ça a été vraiment quelque chose de qui est parfois peut l'aider justement. Elle dégoupille quand c'est trop, ça va pas dans sa tête. Et ben en fait, la folie parfois c'est fait pour ça. En fait, l'esprit humain crée la folie comme un ultime recours pour ne pas sombrer quoi. Donc je peux vous en lire quelque chose. C'était pour en lire ou pas je peux, par exemple. Une citation, elle dit « Moi, la folie, je l'aime bien. C'est ce qui me permet de survivre, tu vois. Il y a des gens, ils n'ont plus rien du tout. Et quand tu n'as plus rien, ben, il te reste la folie. Et si tu le leur retires, ils crèvent. Moi, je ne veux pas crever. » Donc, c'est des... quand tu es fou, je continue. « Quand tu es fou, tu n'as pas le droit d'être heureuse et tu dois t'agenouiller. Tu as besoin d'aide ? Agenouille-toi et pleure. Montre des cicatrices pour les faire bander. » Faut prouver ta souffrance. Faut montrer que tu ne mens pas, que tu souffres pour de vrai et plus que les autres. C'est une compétition un petit peu. Il faut montrer que tu ne profites pas des bonnes gens qui payent leurs impôts, que tu n'es pas un nuisible mais une pauvre petite victime. Il faut surjouer ton désespoir et cacher ton mépris. Ce sont tes sauveurs, tes bienfaiteurs. Lèche-leur les pieds et remercie-les pour les quelques miettes qu'ils ou elles t'auront jetées à la gueule. J'aimais quelqu'un et elle m'aimait aussi. Au tout début, je lui ai dit « Ne cherche pas à me soigner ». Et elle m'a promis, elle m'a pris dans ses bras et m'a dit « Je n'essaierai pas de te guérir ». Là, je me suis dit « Waouh, super, j'ai trouvé le love, l'amour, le vrai, ou même comme je suis maintenant, voilà ». Mais en fait, non, c'était un piège. Tu vois, il y a des gens qui ont des passions dans la vie, réparer les choses cassées. C'est simple, soit tu vas à la déchetterie, soit tu prends un truc et tu le casses pour le réparer. Moi, on me prend à la déchetterie, puis on me brise les os, histoire d'être sûr qu'il y ait bien un truc à réparer. Mais il faut bien doser, faut que ça dure sur le long terme. Faut que tu casses quotidiennement un petit peu. Voilà, comme ça, doucement. C'est toute une technique. On me dit parle, mais j'ai pas les mots. J'ai une langue, une bouche, mais pas les mots. Je pars à la recherche, mais ça prend du temps, des années. Et parfois ça suffit pas, parfois il faut les construire soi-même, avec ses mains et ses doigts. Faut chercher encore, y a-t-il des mots pour l'errance? Et là je me suis dit, je veux changer, c'est plus possible. Je me demande pas pourquoi. Il faut me changer. Je retire quelques briques du mur qui m'entoure, je parle un peu, je me force. C'est pas agréable. J'espère que ça suffira, que la personne sera contente. Qu'elle continuera de m'aimer. Je n'ose pas l'admettre, mais je ne cherche pas à guérir. Je cherche à être aimé. Les gens qui m'aident, ils ne m'aiment pas. Je veux dire, ils ne m'écoutent même pas. Logique, tu me diras, j'ai pas les mots. Je dis rien, mais je ne sais pas m'exprimer. Et les rares fois où je parle, c'est pas moi, c'est la folie qui parle. Et la folie, ça ne s'écoute pas. L'amour qu'on donne aux fous est toujours conditionnel. Je t'aime à condition que tu te guérisses ou que tu fasses tous les efforts du monde pour guérir. L'amour que les fous donnent est inconditionnel. Si tu veux aimer, ton amour se doit d'être inconditionnel. Il n'y a rien de plus fou que d'aimer inconditionnellement. Mais tu vois, là je parle beaucoup, c'est la manie, tu vois. Quand je parle, c'est comme ça, c'est que j'ai rien à dire. Après, je chute, et après je dis plus rien, je disparais, je tombe. Quand on tombe par terre, on se dit qu'on peut pas tomber plus bas, mais c'est faux. Tu peux toujours creuser la tombe, enterrer. Oui, je t'explique, attends un peu. J'ai jamais vibré avec le concept de maladie. Je veux dire, la maladie, c'est un truc que tu soignes, et moi, je veux pas être soigné. Et la maladie, c'est un truc insupportable et qui fait peur. Moi, ça me fait rire et ça me fait aimer. Moi, la folie, je l'aime bien. Tu vois, la folie, on m'a toujours dit de la fuir, de la réprimer. J'ai voulu la suivre pour voir où elle me mène. Mais j'ai aussi découvert des choses où les mots existent pour les décrire. J'ai découvert des réalités et des mondes parallèles. Tu sais ce que c'est que d'être visiblement fou dans l'espace public ? C'est dangereux. Parce que les autres supportent pas ta vue, ton existence, ta liberté. Ça reflète leur captivité. Et donc, tu vois ? Non, tu vois pas. T'étais pas là. Mais après, il y a la répression. Et pour y faire face, faut être fou. Sans la folie, comment supporter la violence? Là, j'ai compris pourquoi ma folie existe. La manie pour me prendre des coups, la dépression pour m'en remettre. La manie pour les avaler, la dépression pour les digérer. La manie pour avoir l'énergie quand il en faut, la manie pour avoir l'énergie quand il faut, la dépression pour récupérer la fatigue accumulée. La manie pour dire que tout va bien, la dépression pour dire que tout va mal. La dépression, c'est le frein. Ça te dit stop, suffit, pause, ne continue pas, sinon on va prendre un coup de plus, on n'y survivra pas. Bon, je vais m'arrêter là, mais voilà, c'est le premier article témoignage qui expose un peu bien cette, cette notion de, ben, encore une fois, de contention. C'est-à-dire que tu as des choses, des événements psychiques en toi qu'il faut faire vivre, qu'il faut sortir, mais on va te dire non, ne le, tu ne vas pas les sortir, on va plutôt te donner, prendre des médicaments, sois calme, etc. C'est très délicat parce qu'évidemment, on n'a pas envie qu'une personne aille bien, mal devant nous, quand on voit quelqu'un qui dégoupille. On se dit, bon, ben, il faut qu'on l'aide, il faut faire quelque chose, tu vois. Mais encore une fois, on a exclu tellement la souffrance, la diversité en fait, la divergence psychique, qu'aujourd'hui chaque chose qui nous paraît un petit peu anormale nous paraît, on flippe quoi, on flippe tous quoi. Ça c'est assez terrible, je trouve.
Je le trouve tarpin bien sur ça, ce texte, c'est que vraiment enfin, je vous engage vraiment à lire tous ensemble, mais cet article particulièrement, parce que je trouve il est très parlant sur cette optique de guérison aussi, alors qu'il n'y a pas forcément d'optique de guérison. Souvent c'est pas ça arrive et après si tu te soignes suffisamment bien, tout va aller bien dans ta vie. C'est plus complexe que ça, déjà parce qu'il y a ce truc à faire face à de la violence. C'est une réponse à la violence, une protection face à la violence. Et puis c'est des trucs des états psychiques qui peuvent être récurrents, et que c'est pas t'assommer de médoc, ça va pas forcément te guérir. Enfin, sur ce, j'ai du mal à en parler, mais sur cette thématique-là, je trouve ça vraiment très parlant quoi.
Oui, et
quoi.
Ça me fait penser à un truc, c'est qu'en fait avant on parlait de maladie mentale, et après ils se sont rendu compte que la maladie, il y a un traitement, tu le prends et tu guéris. Les troubles psy, c'est plus compliqué que ça. Ça se manifeste de manière variable dans le temps, en intensité, etc. Tu vois, ça peut se tasser, ça peut revenir, etc. Donc avant, il était question de soigner, enfin de guérir la maladie mentale. Mais ils ont compris en fait, les soignants, les psychiatres, que ça ne marchait pas. Ils avaient beau mettre des traitements en place, etc., il y a une chronicisation un peu, voilà. Et donc ils ont arrêté de parler de maladie mentale. Aujourd'hui, maintenant, on parle plus de souffrance psychique. Voilà.
Ouais, surtout, il y a pas de symptômes apparents, tu vois. Aussi en psy, dans la souffrance psy, quand tu es schizophrène, il y a pas le gène de la schizophrénie. Il y a pas, on peut pas mettre ton cerveau au microscope et dire ah ouais, d'accord, je comprends pourquoi les schizophrènes, il y a un problème là. Ça n'existe pas. Donc le concept de maladie est vraiment foireux quoi en psychiatrie. Ça c'est sûr.
Et même si c'est plus désigné comme maladie mentale, il y a quand même tout un système qui s'accorde comme si c'était une maladie mentale, même s'il y a des évolutions avec le temps. Ah. Mais après, je sais pas.
Mais si, mais même dans l'esprit des gens, les gens parlent quand même encore beaucoup de t'es malade, tu vois. T'es un malade mental, tu vois. C'est un truc qui est resté quand même.
Ça vient de loin, hein. Ça vient de l'époque des sorcières, du médiéval, en fait de la possession aussi, hein. C'est vraiment, on est encore dans des schémas très très anciens, primitifs, archaïques, de l'esprit qui incarne d'un coup une personne que tu connais et qui d'un coup c'est plus la même, elle est possédée par un démon. Et là on n'a vraiment pas beaucoup évolué dans l'idée par rapport à ça. On a juste déplacé en disant que c'est une maladie, mais en fait on n'en sait rien de plus. Donc c'est la psychiatrie telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une science aussi très jeune, tu vois, elle a même pas 200 ans en fait. La médecine, c'est bien plus vieux, mais la psychiatrie, l'étude vraiment de la souffrance mentale, c'est extrêmement jeune, tu vois. Et il s'est pas passé énormément de choses. Il y a eu Freud avec l'inconscient, il y a eu les neuroleptiques, les antipsychotiques qui ont fait que les gens sont un peu plus stabilisés, mais en fait, on sait que trop peu de choses encore aujourd'hui, quoi. Donc on est au tout début de ça, et Par contre, ce qui est vrai, c'est que ces 20 dernières années, il y a eu pas mal de changements en psychiatrie où on a vu l'usager, la personne concernée, être quand même plus mieux considéré et être remis un petit peu au centre du débat. C'est-à-dire, on s'est aperçu qu'il y avait des collectifs d'anciens patients psy qui sont, ce sont des gens qui se sont rencontrés, qui ont créé des collectifs pour un peu se raconter leur histoire, se changer des trucs. Et ça marche aussi, en fait.
Typiquement, les survivants de la psychiatrie.
C'est voilà, ça.
Qui en dit assez long. Quoi.
Et donc, en fait, il y a eu pas mal d'expériences de guérison, ou pas de guérison, mais en tout cas d'amélioration d'état de personnes qui s'est fait sans psychiatre et sans médicamentation. Donc, ça, c'est encore des choses où, en fait, personne ne sait vraiment. Donc, c'est quand même vachement intéressant de voir que l'entraide et la solidarité en psychiatrie, c'est quelque chose d'essentiel, quoi. Il ne faut pas hésiter à s'entraider, il ne faut pas hésiter à demander à l'autre qu'est-ce qui ne va pas, à s'aider, c'est la base pour aller mieux, quoi, c'est sûr. Et ça, c'est ce que j'essaie de dire un peu le plus souvent que possible. Quoi, mais voilà.
Comme dans toutes les oppressions, au final. Enfin, du coup, là, que tu sois fou folle, au final, c'est en se mettant ensemble entre personnes concernées que
bien sûr.
On peut un peu se faire du bien, et c'est
bien
le
sûr.
Cas pour toutes les oppressions.
Ouais.
Et. Je sais pas, est-ce que vous voulez développer un peu sur ce bail de père et danse
T'as un petit accent marseillais charmant. comment tu dis père et danse ?
Père et danse. mais du coup, je sais pas si vous voulez en
un petit peu
parler.
De père et danse. Alors, la père et danse.
Bon, on va se calmer direct. Direct, tout de suite. Est-ce que vous voulez un peu parler de
bah
ce
oui,
rapport
bah,
au...
Bah, ça vient de là, en fait.
Parce
si
que
tu
ça,
veux
soin,
que
soin.
C'est en fait, ça, c'est passé en Amérique, mais les gens se sont aperçus que les patients arrivaient à se guérir aussi entre eux quand ils se sont regroupés, donc dans ces collectifs. Et ils avaient aussi ce qu'on appelle un savoir expérientiel, tu vois, qui s'oppose un peu au savoir académique de la science, de ce que tu apprends en fac, quoi, tu vois. Donc, en fait, les médecins se sont rendus compte que les anciens patients sont utiles pour essayer d'en guérir d'autres, en fait. Et donc, les médecins ont commencé à dire aux anciens patients, est-ce que tu veux pas venir j'ai un patient un peu difficile qui me rappelle un peu ton cas, je sais que toi, tu en es sorti, est-ce que tu peux venir en parler devant lui, nani, nana. Et au fur et à mesure, ces gens-là ont fini par carrément être embauchés, salariés par le soin, par l'établissement de soins, pour aller vers des patients qui étaient un petit peu délicats à rentrer en contact pour les professionnels. Donc ça, aujourd'hui, ça s'est développé, et on appelle ça un père aidant, père P-A-I-R, c'est-à-dire comme donc une personne pareille, quoi, tu vois, c'est ton père, aidant, donc aidant qui aide. Donc et ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer en France, de manière assez retardée, parce qu'en Amérique, il y en a beaucoup, en France, on commence à peine. Mais c'est un petit peu ça qui est vachement nouveau et mis en avant aujourd'hui, c'est cette notion de père aidance. Comment il y a beaucoup de personnes concernées par la psychiatrie usagère qui travaillent, soit pour la PHM, hein, n'importe quel des hôpitaux publics ou des cliniques, qui sont là pour aider, apporter une certaine facilité aux professionnels, compléter justement leur savoir académique par un savoir expérientiel, par leur propre expérience, pouvoir montrer aux patients qu'ils peuvent avoir des améliorations, ils peuvent avoir aussi une possibilité de travailler après, il y a beaucoup d'espoir porté justement à travers cette notion de père aidance pour les personnes, pour les patients, quoi. Alexandre, tu veux dire quelque chose là-dessus? J'ai l'impression de beaucoup parler, forcément, alors il faut que je dise.
Non, t'inquiète.
Parce que Julie, elle veut pas parler.
Sur la père aidance, la père aidance, non, mais t'as bien résumé le bail. Hein.
Ouais.
Bah oui, je trouve, ouais.
Et donc, sur ce concept, il y a aussi des alternatives un peu qui essayent d'être mises en place. Est-ce que vous voulez en parler
en
ou,
fait,
ou pas du tout
cette, hein, cette danse, peut... le truc c'est que ça a été vite rattrapé justement par le, encore une fois par l'État, c'est-à-dire l'État a compris qu'il y avait des gens qui étaient intéressés de s'entraider, tout ça, mais dès qu'il y a un peu un savoir expérientiel, autosupport, soin communautaire, et que ça commence à échapper un petit peu à l'État, ben, l'État va vite reprendre ça et récupérer. Donc aujourd'hui il y a des diplômes universitaire de père aidant, il y a des formations pour être père aidant. Ça s'est très formatisé en fait. Et du coup, ça devient de plus en plus assez rigide ce format. Moi, je connais pas mal de pères aidants qui, à la base, c'est justement faire profiter aux autres de son expérience de diversité, d'être un peu de neurodiversité, c'est-à-dire que tu fais profiter un peu justement ton savoir, ton atypicité, ton côté un petit peu marginal, finalement ça peut servir. Mais là d'un coup on reformatise les gens, on les reformate comme des travailleurs un peu sociaux, tu vois, avec des concepts comme justement le rétablissement psychiatrique, l'aller vers plein de concepts qui sont assez cadrants et qui, comme ça au moins qui vont pas commencer ils savent, en gros, l'État, c'est ce que tu fais, quoi. Et ça, c'est assez dangereux parce que la sauce Macron, bah, ça peut devenir des nouveaux flics, quoi, tout simplement, quoi. Moi, je connais beaucoup de pères aidants qui ont perdu justement leur côté original pour se cacher derrière, pour se remettre dans des dogmes comme ça. De père aidant ou comme ça, oui, père aidant c'est comme ça mais pas comme ça, nani nana, alors qu'à la base justement l'autosupport ça a été quelque chose qui était extrêmement riche de par la diversité des personnes présentes et avec un savoir extrêmement large, quoi. Voilà, donc faut faire gaffe encore une fois. Chaque fois qu'il y a un truc bien qui se passe, l'État est là pour le récupérer derrière, donc il faut vraiment faire gaffe.
Ils reprennent toutes nos luttes, ces grands bâtards.
Bah ouais, bah grave, ouais. C'est
ouais,
ça.
Ouais, ouais. Mais comme les groupes d'entraide mutuelle, hein, à la base, c'est des lieux qui avaient vocation à être avec des idées d'autogestion, etc. Et l'ARS a compris que c'est bien, ça sort les gens de l'hôpital, on va peut-être se rapprocher de ces gens-là. Et ils ont commencé à cadrer l'activité des GEM, à professionnaliser un peu le bail, alors qu'avant c'était juste un groupe d'autosupport, enfin des groupes d'autosupport entre pairs, entre personnes concernées par la souffrance psy. Et après, ils ont voulu professionnaliser, donc mettre soit des travailleurs sociaux, des animateurs, etc. Comme si, en fait, les gens n'étaient pas capables de s'organiser, de faire fonctionner un lieu, tu vois. Il y a toujours ce truc de « Ah non, mais c'est des gens, ils ont des troubles psy, c'est des incapables, tu vois. Ils vont pas pouvoir faire fonctionner un lieu ou s'organiser sans nous, tu vois. »
Ils ont des organisations, des moyens d'organisation qui échappent, encore une fois, à leur contrôle, à l'État. Une fois, c'est une notion de contrôle qui est extrêmement présente et centrale en psychiatrie, c'est le contrôle. C'est-à-dire, voilà, on veut pas que tu découpilles, on veut pas que tu décompenses à ce moment-là, on veut pas que tu fasses ça comme ça. Donc cette notion de contrôle, elle est, encore une fois... Il y a beaucoup de choses communes avec l'incarcération, quoi. Donc c'est pareil, en fait, c'est une sorte de prison mentale, en fait, qui est créée dans un service psychiatrique. Il y a un peu ce côté-là qui est très difficile, même pour moi, tu vois, dans un quotidien c'est extrêmement dur, moi je trouve, tu vois, ce côté-là, ce truc où t'es un petit peu obligé de suivre une certaine marche sociétal, ou sinon voilà, la marge va venir te reprendre et tu vas repartir en HP, c'est super dur, je trouve. Voilà.
On voulait peut-être parler aussi des...
faire des blagues aussi,
non ? Oui, t'en as des biens en plus, toi.
Des blagues sur la psychiatrie, j'en ai pas en plus, quoi. C'est chiant, quoi.
Ah ouais, mais... Putain,
mais la prochaine fois que vous viendrez,
moi j'en ai...
Vous en lâcherez quelques...
J'en ai une pas mal. Alors, c'est deux fous, ils veulent s'échapper de l'HP.
Ah, bah, voilà.
Et donc, c'est la nuit, et puis ils sont là, ouais, allez, viens, on va s'échapper. Puis il y en a un, il fait, mais comment on va faire et tout. Ben, en fait, c'est simple, on va se mettre au bord de la fenêtre. Il fait, mais on va pas se jeter. Je fais, non, j'ai une lampe de poche, tu vois, et je vais allumer dehors et il y aura le faisceau lumineux. Ben, toi, tu n'auras qu'à marcher sur le faisceau lumineux pour aller jusque de l'autre côté. Et l'autre fou, il dit, mais moi, je vois, c'est n'importe quoi ton truc, parce que je sais très bien qu'à mi-chemin, tu vas éteindre la lumière. Elle est mignonne, elle est mignonne. Elle est, elle est psychophobe, elle est tout ce que tu veux, mais
ah
elle
ouais,
est mignonne.
On
aussi.
Aime bien, on aime bien quand même. Voilà.
Parce qu'il rigolote. Faut quand même porter un petit peu une touche de positif dans tout ça, même si c'est une blague pourrie. Mais il y a quand même beaucoup de. Moi, depuis que je suis un peu. Que j'ai un peu connu ce milieu de la psychiatrie, c'est extrêmement riche, intéressant. Et finalement, si on s'intéresse et qu'on essaie de justement récupérer un petit peu son atypicité. C'est riche aussi, c'est riche et ça, c'est émancipateur, donc c'est assez chouette.
En mode retournement du stigmate, quoi.
Pardon? Mmh.
En mode retournement du stigmate, quoi.
Ouais.
Oui, oui, c'est ça. C'est,
ouais.
Donc c'est très. Après, c'est dur d'affirmer que tu as des problèmes psy. Tu vois, là, ça fait deux meufs que je rencontre qui me disent: ah bah non, la psy, ah ouais, t'as des souffrances psy, ah bah non, et, bon, bah, moi je veux pas trop, j'ai un peu une histoire, là, là, et hop, elle se casse. J'étais dégoûté, quoi. Et combien de fois, plusieurs fois, je me suis fait larguer parce que, ah ouais, mais non, mais imagine, pareil, tu dois retourner en HP, moi je me retrouve tout seul avec l'enfant, blabla, blabla. Non, c'est lourd, c'est quelque chose de très difficile, quoi. Une fois sorti, je pense que je sais pas si on n'a pas plus de facilité à cacher le fait qu'on est allé en prison plutôt qu'on a un pas présent avec la psychiatrie. C'est je sais pas qu'est-ce qui est le plus facile de cacher.
Dans tous les cas, c'est lourd.
Ouais, c'est ça.
Ça c'est.
Ouais.
C'est...
Je sais pas si vous voulez parler d'un truc encore là. On approche de la fin, mais enfin, ouais. On a dépassé la fin, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a des gains après.
Parce qu'on veut.
Parce qu'on veut, mais je sais pas, peut-être.
Alexandre, il est chaud, il veut dire
ouais,
un truc.
Je suis over chaud là. Non, mais on voulait peut-être parler justement des troubles psy en prison aussi, tu vois, et la prison en charge des personnes incarcérées. Qui développe des troubles psy du fait de voilà de des conditions d'incarcération, etc. Et il était question qu'on bon comme tu disais, tu le rappelais, que la santé mentale et que les troubles psy, en fait, c'est assez banal, tout le monde en connaîtra, voilà, avec des degrés d'intensité différentes et des souffrances différentes, mais juste tenir ce propos, quoi, en disant que bon, et développer des troubles psy, avoir un mal-être, etc. c'est pas grave, c'est normal, en fait, tout le monde, et surtout dans le cas comme les détenus, quoi. Mais voilà, essayer d'en parler et juste pas se. On sait que c'est stigmatisant, mais pas se stigmatiser en plus, en disant: ah ouais, mais voilà, j'ai des troubles psy, je suis fragile, je suis faible. La fragilité, elle est inhérente à tout le monde. Donc il faut pas sombrer là-dedans dans ce truc de: ah, j'ai des troubles psy, mon Dieu, c'est ok, tu as des troubles psy, c'est ok. Alors,
Et on peut vivre avec ça et y piocher. Ce qu'on peut dedans, et enfin,
bien sûr, après,
je suis pas la plus concernée pour parler de ça, mais
non, ouais,
il y a quand même un truc, des personnes qui arrivent à avoir à aimer, être aimé, même si c'est galère parce qu'il y a toute l'oppression derrière, c'est possible,
carrément, et ça me fait penser à votre travail là, que enfin, voilà, l'émission que vous faites. Donner la parole aux détenus et à l'entourage, etc. Ça aussi, c'est du soin, en fait. Et ça permet aux gens aussi de vivre mieux l'enfermement. Donc voilà, ne pas rester isolé et voilà, donc compter sur la courte échelle pour ça c'est bien. Et puis oui, les liens avec l'extérieur, c'est important quand on est dans ces conditions là où on est enfermé et voilà, isolé aussi.
Ouais. Peut-être aussi sur la thématique du psy, c'est possible d'écrire à son soin. Parce que du coup le journal il est participatif, collaboratif, je sais pas comment on dit, et c'est possible d'écrire pour faire des témoignages. Dans tous les cas, on peut aussi vous envoyer des numéros, que ce soit par la courte échelle ou par sans soin, et peut-être vous pouvez donner un contact, je sais pas si vous avez.
Il y a le mail, hein. Après évidemment internet c'est pas forcément facile à avoir tout le temps, mais vous pouvez écrire à Radio Galère. Je pense que l'adresse, elle a été donnée. Peut-être que vous la connaissez déjà. Mais vous pouvez écrire à Radio Galère qui nous transmettra. Il n'y a aucun souci.
La courte échelle, Radio Galère, Friche de la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 13003, Marseille.
Voilà, et sinon, après, bon, il y a le site internet soinsoin.fr, encore une fois, il faut aller sur internet. Mais voilà, n'hésitez pas à écrire aussi des choses, des témoignages qu'on pourra publier aussi. On est, on est extrêmement, évidemment, le but, c'est que ça soit des usagers ou des usagères qui écrivent, donc n'hésitez pas à témoigner de ce que vous vivez, des choses bonnes ou moins bonnes. Il n'y a aucun problème, même des dessins, des, parce qu'on publie aussi pas mal de BD, d'illustrations. Alors, ce sera extrêmement bienvenu. Et encore une fois, si vous voulez qu'on vous envoie soin, pareil, vous nous dites, vous envoyez une lettre à Radio Galère qui nous donnera toutes vos coordonnées, on vous enverra gracieusement soin.
Est-ce qu'on
peut rajouter d'autres? Il y a plein de choses encore.
Sinon, on peut lancer la musique de fin. Enfin, sentez-vous.
En tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités. C'est chouette. Longue vie à la courte échelle. On pourra revenir quand vous voulez.
Avec plaisir.
Grand plaisir.
Merci à vous.
Grand plaisir.
C'était chouette.
Et bah, du coup, on va terminer sur un son qui s'appelle J'irai pas voir un psy de Lo Carré. Et voilà, et on vous dit à la semaine prochaine, et merci beaucoup d'être venu.
Oui, force à toutes les personnes concernées par l'enfermement, donc en HP, et en TOL, et en CRA, et en EPM.
Oui, et toutes les personnes qui font les allers-retours entre
même
toutes
les
institutions.
Même la rétention temporaire.
Ouais.
Allez,
à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Envie d'aller voir un psy, oui c'est vrai j'ai des problèmes mais je n'en parle à personne. Ils voudraient que j'y aille même si j'ai grandi là où les petits courent après les belles sommes. Pourquoi autant de gens me questionnent et dis-moi pourquoi devant le bien j'ai l'air indécis. J'ai pas besoin de tous vos conseils, bande de fils de pute, j'irai pas voir un psy. Ne me parle pas d'apaiser mes peines ou mes fautes, raconter ces problèmes aux autres, je crois que c'est la pire des bêtises. Ne me parle pas d'un maladie mentale ou autre, si ça va pas j'écris des textes ou je fais des louanges à l'église. Je parlerai pas de mes réflexions, de mes déceptions, y'a que dans les films où ça finit bien et s'il y a pas de remède, faut pas que je cède, c'est comme ça que je procède. Il y a que les faits qui demandent. Moi j'ai pas besoin d'aide. Enfin, je crois, c'est bizarre, j'ai comme au fond moi, des milliers de peines que je raconte. Et moi j'ai pas besoin d'aide.